Alors aujourd'hui, c'est justement la journée du sel et donc André qui se joint à nous va nous donner quelques informations tout à l'heure. Mais il y a donc tout un dossier qui a été préparé par les frères et sœurs de cette association, le sel, sur le thème faire le bien et bien le faire. Alors, j'ai imprimé la première page de la prédication, mais le reste, je l'ai écrit à la main. Alors, d'abord, pour une raison très simple, c'est que imprimer les documents du sel prend énormément d'encre, parce qu'ils ont donc des placards, là, c'est très très bien fait pour Internet, mais alors, pour imprimer... Or, vraiment, je suis de ceux qui pensent que nous ne devons pas gaspiller et que si nous pouvons faire autrement et que voilà, que quelque chose qui va utiliser beaucoup de matière et d'argent, eh bien, il vaut mieux le faire. Alors, faire le bien et bien le faire, je pense que c'est aussi cela. Ensuite, m'étant décidé à reprendre le texte donc et en écrire les principales idées, et bien je me suis dit que en fait c'était quand même beaucoup mieux que je ne fasse pas simplement que vous lire la prédication, mais que je la présente telle que je la reçois moi-même. Alors bien sûr, ces frères ont bien travaillé et ils ont mis en proposition des textes de prédication dans la première épître de Pierre. Alors ils le prennent dans la traduction Nouvelle Bible Second, chapitre 1, versets 1 et 2, et puis chapitre 2, versets 11 et 12. Alors, je vous le lis d'abord dans leur version. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont été choisis et qui vivent en étranger dans la dispersion, dans le Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, tels qu'ils ont été désignés d'avance par Dieu le Père, dans la consécration de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et puis le chapitre 2, versets 11 et 12. Bien-aimés, je vous encourage comme des exilés et des étrangers à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations pour que sur le point même où ils vous accusent de faire le mal, il voit vos belles œuvres et glorifie Dieu au jour de son intervention. Alors je vous le lis maintenant dans notre version Second classique. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Déjà, je m'arrête ici, que la grâce et la paix vous soient multipliées, je le demande pour vous. Que le Seigneur vous multiplie la grâce et la paix, puisque vous faites partie de ces dispersés dans le monde, qui sont au bénéfice de la préscience de Dieu le Père, de la sanctification de l'Esprit et de l'obéissance de Jésus-Christ. Alors, lisons aussi au chapitre 2, versets 11 et 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Alors, il y a une nuance majeure de traduction dans les versions modernes. Les traducteurs traduisent plus volontiers bonnes œuvres par belles œuvres. Apparemment, le terme donc original a une connotation un peu esthétique, donc qui fait que voilà, il y a aussi cette notion de quelque chose de beau dans ce qui est bon. Alors voilà, si ces passages ont été choisis, eh bien c'est pour nous inciter, nous exhorter à faire le bien. Faire le bien à cause de, tout simplement, de, déjà, premièrement, notre nature, la nature de ce que nous sommes. Alors, bon, je suis désolé de la lumière qui clignote. Elle s'est mise à clignoter là juste maintenant, et bon, on réparera dès que possible. Alors, voilà, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, et nous sommes des choisis de Dieu. C'est déjà à ce titre que nous sommes, à ces deux titres, que nous sommes appelés à faire le bien. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre de la même façon qu'Abraham l'était, hein, puisque lui-même, alors qu'il était dans la terre promise, ce pays qui lui avait été promis, dit, au chapitre 23, verset 4, au fils de Heth, « Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous. » C'est au moment de la mort de Sarah. Ce qui fait que Abraham, en tout et pour tout, ne va posséder sur la terre qu'un sépulcre. Le lieu de la mort qui anticipe en fait sur le fait que, eh bien, là où Jésus a été pleinement parmi nous, c'est lorsqu'il s'est donné et qu'il est mort pour nous, et qu'il a été enseveli dans ce tombeau. Et voilà, il n'y a pas d'autre possession pour Jésus que sur la terre, en fait. Et pour tout croyant, même si nous vivons dans la promesse de l'héritage du monde, eh bien, nous n'en sommes pas moins étrangers sur la terre, et nous sommes morts à ce monde présent. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 13, il est dit que « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité, c'est par la justice de la foi. » Donc tous ceux qui reçoivent par la foi les promesses de Dieu deviennent héritiers de tout ce que Dieu a promis à Abraham, c'est-à-dire héritiers du monde. Le monde entier est notre héritage si nous sommes dans la foi. Et c'est ce que Jésus d'ailleurs dit d'une autre façon dans Matthieu 5, verset 5. Heureux, dans les béatitudes, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Donc ce n'est pas rien, ces promesses. Nous allons hériter de la terre. Mais en attendant ce temps, eh bien, nous nous considérons justement comme étrangers à ce monde qui n'a pas, c'est notre position, nous sommes voyageurs au sein de ce monde pécheur qui n'a pas reçu son Seigneur. Israël au désert marchait vers la terre promise, les chrétiens sont en route vers leur patrie céleste. Et puis il y a un autre épisode dans la vie d'Israël sur lequel on prêche moins peut-être. C'est la période de l'exil à Babylone. Israël, bien sûr, à cause de son péché, s'est retrouvé en exil à Babylone. Et donc, les chrétiens sont en exil aussi au sein d'un monde hostile au Seigneur, un monde païen. Nous n'avons pas transformé le monde, nous restons au sein d'un monde païen. Et à ceux qui étaient en exil, il était demandé par Jérémie, par le Seigneur, au moyen de Jérémie, chapitre 29, versets 4 à 7. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles, multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Donc il est assez évident qu'il y a un parallèle avec la position des chrétiens dans le monde. Ils sont appelés à continuer de vivre au sein de ce monde et à rechercher en fait le bonheur de la société dans laquelle ils vivent, pour eux-mêmes, en fait, bénéficier de la paix de Dieu d'une certaine manière. Il est écrit à un moment donné dans le livre des Actes que l'Église était en paix à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie. L'Église était en paix à ce moment-là. Et les apôtres, justement, nous demandent de prier pour les autorités afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Donc nous avons aussi ce devoir vis-à-vis de cette société dans laquelle nous sommes étrangers, mais de contribuer à faire le bien. En agissant dans la foi, Abraham faisait le bien. D'ailleurs, il est aller délivrer, à un moment donné, son neveu Lot, qui avait été fait prisonnier par des envahisseurs. Et puis, il choisissait toujours de se mettre sous l'aile du Seigneur, et Dieu l'enrichissait de différentes manières. Mais il restait dans sa position d'étranger et de voyageur. Israël, au désert, apprenait, lui, à faire le bien. Et puis Israël, en exil, devait rechercher le bien du pays. Eh bien, le chrétien, dans la foi qu'il a en Jésus-Christ, et dans la foi en ce qu'il possède en Jésus-Christ, parce que le chrétien n'est pas démuni, le chrétien est enrichi de toutes les bontés de Dieu. Eh bien, le chrétien ne s'accroche pas au bien de ce monde, et de ce fait, il peut se concentrer sur le bien véritable. Il peut rechercher ce qui est bien et à faire le bien, parce qu'il a une position de liberté vis-à-vis de tout ce qui produit des esclavages dans ce monde. Et puis surtout, le chrétien se sait choisi de Dieu. Il est au bénéfice, donc on l'a lu, de la préscience de Dieu, de l'action sanctifiante du Saint-Esprit, de la purification par le sang de Christ et de son obéissance qui se répercute dans nos vies. Les chrétiens ont toutes les qualifications pour faire le bien. Ils ont reçu cette nouvelle nature, cette purification de leur cœur de leur conscience. Et donc, une nouvelle nature en Jésus-Christ. Donc, je dirais que il vous suffit d'être vraiment dans la foi et de connaître de façon vivante votre Seigneur pour, je dirais, pas automatiquement, mais en tout cas, très facilement faire le bien. Les motifs chrétiens, on peut dire, de faire le bien sont inscrits dans ces gènes spirituels. Nous sommes constitués en Jésus-Christ pour le bien. Donc, ça ne peut pas être une difficulté pour nous. A priori. Mais il y a l'environnement. Il y a le monde hostile au Seigneur dans lequel nous demeurons. Et là, les choses se compliquent un peu. Elles se compliquent en particulier du fait que le Seigneur ne nous a pas séparés de notre nature charnelle. Hein, il y a en nous la vie de l'esprit et il y a encore la vie de la chair. Hein, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, dit l'apôtre. Par notre nature charnelle, eh bien, nous participons encore à, finalement, ce monde hostile à Dieu. Alors, c'est là que Pierre nous demande de nous abstenir des convoitises charnelles ou des désirs charnels. C'est une action volontaire et elle est opposée justement à l'attitude des pécheurs de ce monde qui au contraire exalte les désirs charnels. C'est là que le chrétien a un travail à faire sur lui-même et des décisions à prendre pour combattre sa propre nature charnelle. Et se distinguer ainsi de celle de son prochain, son voisin, qui, lui, ne cherche pas, en fait, à les refuser. Et bien sûr, tous ces désirs charnels, ces convoitises, ont donné pour nous en particulier au XXe siècle et XXIe siècle, enfin, ça a commencé avant, mais ça s'est développé donc, depuis le XIXe jusqu'à maintenant, la société de consommation. Et cette société de consommation, elle repose en grande partie sur l'exploitation des populations pauvres, malheureusement. Alors, en sortant, on peut dire, de cette consommation, de société de consommation, eh bien, nous pouvons retrouver les valeurs véritables qui nous permettront de faire ce qui est bien. En renonçant au désir de la chair, vous devenez réellement libre pour faire le bien et bien le faire. Et à ce moment-là, tous ceux qui vous entourent sont concernés. Dans Pierre, donc, si nous continuons la lecture, bien, nous lisons que quelques applications, en quelque sorte, que fait Pierre. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Et ensuite, il va dire, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Et puis ensuite, il demandera aux épouses, femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Et puis ensuite au mari, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. L'apôtre nous montre comment vraiment le bien va pouvoir impacter toutes nos relations, qu'elles soient proches ou même donc sociales, puisqu'il s'agit même d'honorer le roi. Et donc, lorsque vous avez cette attitude de pratiquer le bien envers tous, d'ailleurs, ce que l'apôtre aussi nous demande par ailleurs, hein, pratiquer le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi, cela est remarqué. Ne pensons pas que lorsque nous faisons ce qui est bien, nous soyons seulement des personnes invisibles en quelque sorte. Non, ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte dit afin qu'ils remarquent vos bonnes œuvres, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Cela est remarqué et là même où il vous calomnie, dit l'apôtre, et vous remarquerez, vous expérimenterez à certains moments dans votre vie que si vous persistez dans une attitude de justice, de sainteté, de recherche de ce qui est bien, même si vous êtes désapprouvé pendant je ne sais combien de temps ou méprisé ou rejeté ou en tout cas laissé de côté, au moment, dans certaines circonstances, dans des moments cruciaux, des païens se tourneront vers vous, vous chercheront comme recours, parce qu'ils savent dans leur conscience qu'ils peuvent vous faire confiance. C'est, je pense, une expérience que tout chrétien, à un moment donné ou à un autre, peut faire. Même si on parle de vous de façon méprisante ou bien... Non, votre attitude, votre engagement, ce que vous faites de bien est remarqué. Et à certains moments, c'est vers vous que le païen se tournera, parce qu'il n'a confiance en personne et il sait que à vous, il peut faire confiance. Afin qu'il voie vos bonnes œuvres. Et le résultat, eh bien le résultat, il est pour Dieu. Afin qu'il voit vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour de son intervention. Ce qui rejoint ce que dit Jésus dans Matthieu, au chapitre 5, verset 16, cette fois-ci, toujours le même contexte. D'ailleurs, les béatitudes, voilà, c'est exactement ce que le Seigneur donc attend de nous. Et au verset 16, le Seigneur dit sensiblement la même chose que Pierre, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce bien que vous faites est venu de Dieu. Vous ne le faites pas dans le sens où on a peut-être appris à certains à faire le bien, c'est-à-dire pour s'accumuler des bonnes œuvres, pour avoir une récompense ensuite. Non, lorsque vous faites le bien, inspiré par la grâce et l'Esprit de Dieu, La gloire en revient à Dieu. Vous lui rendez grâce, vous, déjà personnellement, d'avoir été capable de faire le bien. Et les autres aussi, finalement, peuvent être amenés à glorifier leur Seigneur au jour où il les visitera. Pendant toute une période, ils vont être insensibles et il arrivera un moment où le Seigneur va pouvoir leur parler, va pouvoir toucher leur conscience, va pouvoir les amener à lui et les sauver. Oui, pour ceux du dehors aussi, il y a ce résultat que finalement, la gloire de Dieu est manifestée lorsque vous faites ce qui est bien. Donc, persévérons à faire le bien. Il est bon d'avoir des occasions comme celle-ci pour voir des choses plus pratiques, plus concrètes, plus précises concernant tout ce qui se fait dans le monde, dans la foi au Seigneur Jésus. Et puis des actions donc envers des différentes populations, etc. Mais c'est vraiment d'abord, faire le bien, c'est vraiment d'abord une attitude qui se fonde sur notre détachement de ce monde pour pouvoir y vivre les manifestations du royaume de Dieu. Et là, le Seigneur vraiment va nous employer pour ce qui est bien.